Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Salut, c'est Nadia de Nanner Podcast. Avant que tu découvres ce nouvel épisode, j'aimerais te parler de Yes Podcast. Yes, c'est le podcast qui m'a donné la force de me lancer. C'est un podcast féministe et résolument positif. Deux fois par mois, Margaïd, Elsa et Anaïs célèbrent nos victoires de femmes contre le sexisme sous toutes ses formes. Yes, c'est pour toi, c'est pour nous, c'est pour toutes les warriors du quotidien. Tu peux les écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Non, nous ne serons plus discrètes. Cet épisode, je le dédie aux femmes d'origine nord-africaine, à nos mères, à nos sœurs, nos grands-mères qui ont vécu dans la discrétion, à celles qui ont subi les stéréotypes, les injonctions, les violences liées à notre genre et à nos origines. À ce mec qui m'a dit en soirée il y a quelques années « T'as de la chance, c'est à la mode d'être beurette ». Oui, lui là, qui croit que nos corps leur appartiennent, je lui dis aujourd'hui que non, je ne serai plus discrète. Nous sommes femmes, nous sommes françaises, marocaines, algériennes, tunisiennes, célibataires, divorcées, lesbiennes, en colère, apaisées, musulmanes, en questionnement, athées, hétéro, paumées, complexes, fières. Nous sommes fières et je le répète, nous ne serons plus discrètes. À nos identités plurielles. J'ai eu l'honneur d'échanger avec Faïza Guen, romancière aux mots authentiques, sensibles, drôles. Une femme engagée qui écrit des pages qui bouleversent, qui touchent en plein cœur. On a parlé de son livre La Discrétion, qui retrace l'histoire de Yamina, une femme algérienne de 70 ans, en France. Un récit singulier et universel qui traverse les générations et immortalise notre héritage. Faïza, merci pour ce bel hommage à nos récits encore trop peu racontés. Avec l'histoire de Yamina et sa famille, tu racontes avec sincérité et justesse nos parcours de vie si complexes. Est-ce que tu peux d'abord nous parler de Yamina, l'héroïne de ton roman ? Qui est cette femme ?
Alors Yamina, donc l'héroïne de mon roman La Discrétion, c'est en apparence une femme ordinaire qui est une femme de 70 ans. Qui est donc une mère de famille qui vit à Aubervilliers de nos jours. Elle a eu 4 enfants, elle vit avec son mari, donc c'est une maman, surtout, qui prend le bus le samedi matin pour aller faire le marché, qui est contente de préparer le déjeuner pour recevoir ses enfants à la maison, et qui incarne un peu cette génération semble... Être discrète, effacée, etc. Mais Yamina, c'est aussi une femme qui a été une petite fille, une jeune fille qui a vécu la guerre d'Algérie, l'exil, et voilà toutes les expériences qu'on peut vivre en tant que femme. Et j'avais envie de mettre de la lumière sur elle.
Et ce qui est beau aussi, rien que dans la mise en page de ton livre, c'est que tu fais le parallèle entre sa vie aujourd'hui, à 70 ans, en France, et sa vie de jeune femme en Algérie. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Pour moi, c'était très important. En fait, c'était important de comprendre ce qui avait traversé cette existence. Et donc, ce qui, à travers les événements qu'elle a pu vivre avant d'avoir ses enfants, avant d'être cette femme de 70 ans, comment ces événements l'avaient impactée, comment cette histoire l'avait... tenue au silence, et comment surtout cette histoire allait impacter ses enfants. Pour moi, l'idée, c'était vraiment de dessiner une sorte de galaxie avec Yamina qui serait un peu l'astre au centre, et raconter les répercussions sur toutes les autres petites planètes qui sont ses 4 enfants.
ce qui est beau et que tu as dit dans une interview, c'est que avec ce livre, tu veux aussi faire en sorte que les gens qui croisent ces mamans, ces femmes aujourd'hui, qui portent leur foulard, qui ont l'air d'être discrètes et de n'avoir finalement rien fait de leur vie, de voir qu'en fait, elles cachaient un trésor et un héritage incroyable.
Ouais, pour moi, c'était une des volontés, c'est vrai, quand j'ai commencé à écrire ce roman, c'était de me dire, j'aimerais que, à la fin de cette lecture, les gens ne regardent plus ces femmes de la même façon. C'était pour moi un moyen de leur donner de la visibilité, mais surtout que, de réparer une injustice. Et pour moi, l'injustice majeure, c'est qu'on ignore ces femmes. En fait, qu'on les ignore. Elles ne peuvent pas susciter ni le mépris ni l'indifférence. Et il suffirait, peut-être que c'est un peu naïf, mais ma démarche, c'était un peu ça. Il suffirait qu'on sache. Il suffirait qu'on raconte un peu quelque chose sur ces vies. Et alors, on les regarderait plus jamais de la même manière. On les verrait comme moi, je les vois, c'est-à-dire des héroïnes, y compris leurs enfants, c'est-à-dire pas seulement les gens qui ne savent pas forcément ce qu'elles ont vécu parce que elles sont pas familières, mais même nous, en tant qu'enfants, nos propres mères. Je pense qu'il y a tout un pan de leur vie qu'on ignore ou qu'on n'a pas suffisamment valorisé, et que le fait de le faire pour les enfants, c'est une manière aussi de nous renforcer.
Et à ton avis, pourquoi on ignore ces histoires? Pourquoi elles ne sont pas racontées? Pourquoi elles ne sont pas encore écrites?
Je l'écris un peu dans le roman, mais je pense qu'il suffit de comprendre un peu de quelle histoire elles sont le fruit. Et elles sont le fruit d'une histoire qui est la colonisation, qui est l'immigration, qui est... voilà, elles sont le fruit de cette histoire. Et cette histoire, elle est de fait une histoire de silence, une histoire d'injustice. Donc... forcément, ce sont des vies qui se sont construites dans l'exploitation, dans le mépris, etc. Donc ce silence, il vient de là, évidemment.
Je pense qu'il faut qu'on parle du titre, parce que moi, Yamina, elle m'a rappelé ma mère, qui a le même âge que ton héroïne. Je pense qu'il y a aussi un peu de vrai par rapport à ton histoire. C'est un roman que tu as écrit, mais tu te bases sur des faits réels. Pourquoi la discrétion pour les auditeurs et auditrices qui n'ont pas encore lu ton livre?
Alors, je dois avouer que je crois que c'est la première fois depuis que j'ai commencé à écrire des romans que le titre il m'apparaît de manière aussi claire et aussi évidente. Pour raconter rapidement la genèse un peu de ce roman, j'avais écrit un texte pour la radio, et dans ce texte, je racontais, d'ailleurs elle n'avait pas de prénom, c'était vraiment juste une femme, c'était un texte assez court, une femme de l'âge de Yamina, et je racontais comment le fait d'arriver en France a été douloureux pour elle. Et puis dans ce petit texte, il y avait cette histoire de son mari qui finissait par mourir et qui était enterré en Algérie. Et en fait, en parlant de ce mari enterré en Algérie, j'ai dit « il est mort de discrétion ». Et ça a été quelque chose, je sais pas comment dire, le fait d'avoir formulé ça, ça m'a vraiment à bouleversée, quoi. Et j'ai compris que beaucoup de gens de cette génération... s'éteignaient dans la discrétion, comme ils avaient vécu dans la discrétion. Et j'avais envie, je trouve que c'était vraiment la discrétion. Pour moi, c'est vraiment l'attitude qui raconte le mieux comment ils ont traversé leur vie.
Et comment tu expliques que ces personnes, et notamment ces femmes, vivent et traversent leur vie dans la discrétion, notamment en France?
J'explique ça souvent par le prisme de l'exil, parce que tout à coup, on se départit de tout ce qui nous rend sûrs de nous, c'est-à-dire ne pas avoir les codes, ne pas parler la langue, et surtout à travers le prisme de ce mythe du retour. C'est-à-dire qu'il y a une croyance qui devient un déni, je pense. Et c'est cette idée qu'on va rentrer un jour chez nous. Et il y a l'idée du chez-soi qui est très importante, bien sûr. Et en fait, ce fait de se dire « on va rentrer chez nous », ça empêche aussi de s'ancrer quelque part, ça nous conduit à accepter justement beaucoup de choses, parce que de toute façon c'est temporaire, et cette idée de rentrer un jour, elle fait que ces gens finalement, ils restent effacés. Et c'est pas grave s'ils subissent des choses, puisque de toute façon on n'est pas chez nous, et c'est comme s'ils avaient accepté ce terme du contrat, sauf que le contrat n'est pas honoré jusqu'à la fin, puisqu'ils ne rentrent pas chez eux finalement. Donc pour moi, c'était vraiment une manière de dire aussi à quel point c'était difficile de s'intégrer dans une vie quand on espère en avoir une autre.
Et moi, ce récit m'a profondément émue, car forcément, comme plein de tes lecteurs et lectrices, on a pensé à nos mamans. Et j'ai l'impression que Yamina, elle a vécu sa vie dans le sacrifice, dans le don de soi. Et je vois seulement deux moments dans le roman où elle pense à elle. Le moment où elle est jeune et où elle s'échappe. Le moment où elle est avec ses enfants et où elle va enfin être en vacances. Vraiment. Pas au bled, mais en vacances pour elle. Pourquoi elle ne pense pas à elle, ces personnes? Est-ce qu'on ne leur laisse pas la place? Est-ce qu'elle ne s'autorise pas à prendre soin d'elle?
Il y a aussi, en dehors de la dimension de ce prisme, comme je disais, de l'émigration, il y a aussi cette dimension que c'est une femme. Et donc la question sacrificielle, c'est surtout parce que c'est une femme. C'est surtout parce que il y a l'éducation et il y a la société qui vous met dans cette situation où c'est à vous, de manière tacite, vous savez que vous devez vous sacrifier pour les autres. Alors en plus, Yamina, elle vient d'une famille pauvre, d'une famille qui est une famille de paysans, et elle est l'aînée d'une fratrie de 10 enfants. Alors donc, de fait, elle est construite comme ça, Yamina. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de mères de cette génération. Finalement, la question du choix, elle se pose même pas pour elles. Elles acceptent leur sort sans... Mais alors, c'est pas pour autant que la docilité, c'est quelque chose de d'inné. Moi, je voulais justement raconter cet épisode dans le roman. Il y a donc cet épisode où elle s'enfuit. Elle est encore toute jeune, elle a 14 ans. Et il y a la vieille mère qui vient tatouer les filles dans le village. Et elle décide qu'elle ne veut pas être tatouée. Et en fait, pour la première fois de sa vie, elle va désobéir. Et donc, elle va s'enfuir. Donc, je pense que cette question du sacrifice ou cette question de l'acceptation... encore une fois, c'est une construction, parce que Yamina, au fond d'elle, moi je dis qu'elle a une fibre de résistance qui s'est exprimée ce jour-là. Et je pense que cette fibre de résistance, ses filles en ont hérité d'une certaine façon.
Être une femme nord-africaine, c'est aussi subir des stéréotypes et parfois se sentir dépossédée de son image et de son corps. Samia Saadani est enseignante-chercheuse, actuellement en doctorat. Elle m'a expliqué en quoi la réappropriation de nos corps est un combat éminemment politique.
Il y a une histoire coloniale. Et cette histoire coloniale fait que dans les communautés nord-africaines et leur diaspora, ont été imposées des normes de beauté eurocentrées, donc peau très claire, blanche, cheveux lisses, etc. Et depuis quelques décennies, il y a une mise en lumière des conséquences diverses de l'histoire coloniale. Donc on sort de la négation vis-à-vis de cette période de l'histoire et on va remettre en question l'idée des supposés bienfaits de cette période et on s'intéresse aux causes du racisme intériorisé. Dans notre cas, on s'intéresse à la dépossession de nos corps et à la réappropriation de celui-ci au sein des communautés nord-africaines et sa diaspora. Et on peut voir que des savoirs millénaires ont été perdus à cause de la colonisation. Et avec deux amis, Sonia et Fela, on s'est intéressé à cette réappropriation de nos corps. Et Sonia est tombée sur un livre de la période coloniale. Il est illustré et très détaillé et montre ses savoir-faire perdus. Donc ce sont des coiffures, des tressages, des parures. On peut les voir encore aujourd'hui durant des périodes festives dans certaines régions d'Afrique du Nord. Mais globalement, pour la plupart d'entre nous, nous avons délaissé ces tressages, etc. Et c'était des coiffures qui étaient indicatives d'un statut parfois marital, d'une appartenance à une tribu, d'une appartenance à une région, et elles voulaient dire quelque chose. Et c'est une bonne chose de se réapproprier ces savoirs, parce que cette dépossession de savoir-faire, en plus du fait que nous avons un modèle hégémonique recentré qui se présente comme une forme de clé de reconnaissance par le monde blanc pour s'intégrer, s'assimiler, elle nous laisse en fait sans attache, sans modèle en fait qui nous est propre et qui soit réellement en accord avec notre histoire et nos identités multiples. Mais cette réappropriation, elle ne peut pas se faire sans réinterroger nos identités ou là où les manières dont on se définit, puisqu'elles sont intimement liées à l'histoire coloniale. Qu'on se définisse comme étant africaine, nord-africaine, imazirène, arabe, le plus souvent ce sont des dénominations qui se recoupent et qui ne sont pas forcément contradictoires, mais le problème, c'est qu'avec les dénominations coloniales qui perdurent aujourd'hui, par exemple lorsqu'on appelle tous les nord-africains arabes en fait, avec ça vient l'uniformisation et les stéréotypes. Le type arabe auquel les nord-africains ne correspondent pas non plus tous, et qui ne rend pas forcément hommage à la diversité incroyable de l'Afrique du Nord. Donc ce serait déjà un premier pas important vers une mise en lumière de représentations plus proches du réel des Nord-Africains et de la diaspora, en plus d'une lutte contre la négrophobie qui doit se faire. En d'autres termes, en tant que Nord-Africain, on ne donne pas forcément le droit à cette complexité et ça crée une forme d'intériorisation d'une identité hégémonique et non représentative de qui nous sommes. Et donc, également excluante des personnes nord-africaines non blanches qui ne correspondent pas aux normes de beauté eurocentrées ni aux stéréotypes orientalistes. Il y a de plus en plus de mobilisation des femmes nord-africaines pour la réappropriation de leur corps. Par exemple, au Maroc, je vois apparaître plusieurs collectifs de revalorisation des cheveux naturels. Et en France, il y avait évidemment déjà des mouvements, mais pas spécifiquement adressés aux Nord-Africains, qui eux ne se reconnaissaient pas non plus dedans. Et donc pour nous, en tant que collectif, c'était important de créer un espace qui nous parle, qui prenne en compte notre histoire commune, nos spécificités culturelles, nos spécificités de langage, et les paramètres multiples qui font de nous ce que nous sommes, et aussi qui nous aident à comprendre pourquoi nous en étions arrivés là. Et ce rappel, ou cette redécouverte des savoir-faire, pour certains, c'est une manière de compléter les pages manquantes de notre histoire, et particulièrement celles qu'on ne nous a pas transmises.
D'ailleurs, je voudrais maintenant parler de la nouvelle génération, des enfants de Yamina, de toi, de moi et des autres personnes qui nous écoutent. Elle et son mari ont 4 enfants, et notamment 3 filles, Anna, Malika et Imane. De quelle manière chacune d'entre elles représente une manière de lutter?
Moi, j'ai le sentiment, dans ce livre, j'ai donné à chacun des enfants des questionnements. J'ai un peu divisé mes fardeaux en créant ces 4 personnages, et même le personnage du fils, parce que je pense que c'est des questions qui nous traversent tous, de manière assez complexe. Il y a la question du regard qu'on porte sur nous, il y a la question de cette colère justement qu'on ressent et qu'on sait pas vraiment, dont on comprend pas vraiment la provenance. Il y a cette question justement de se sentir appartenir, d'être chez soi ou pas chez soi. Il y a la question de la langue, il y a plein de questions. Il y a la question des rapports amoureux, la question de comment finalement on est obligé d'inventer quelque chose qui n'existe pas puisqu'on n'a pas de précédent. Donc en fait, les enfants, ils ont ces questions qui les traversent tous. Et c'est que des questions évidemment que moi je me pose, mais que je pense Nadia tu te poses et que plein de gens se posent. Donc c'était une manière pour moi de un peu leur donner à chacun des questions, voilà, des questionnements forts. Et c'est une façon de dire qu'en fait on n'échappe pas. Alors c'est aussi la question du déterminisme social, puisqu'ils habitent à Aubervilliers, il y a aussi un truc très fort de cet ordre-là, mais qu'on n'échappe pas à son histoire. Et que d'une manière ou d'une autre, qu'elle soit racontée ou qu'elle soit tue, l'histoire, elle a un impact sur nous et sur nos décisions et sur nos choix et sur qui on devient. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de à travers chacune des trajectoires, d'explorer ces questions.
Et sans trop en dire sur les personnages, Anna, c'est une femme qui est très en colère, qui est très dans la revendication. Malika, c'est une femme qui a plus de 30 ans et qui est divorcée. Imane, elle a fait le choix de partir de la maison en étant célibataire. Et on sait bien que dans nos familles, c'est très compliqué de faire ça. Je l'ai fait moi-même et ça a été un vrai déchirement dans la famille. J'ai l'impression que ton livre montre à quel point, en tant que femme, tous tes combats.
Oui, et en plus, les combats, nos combats en tant que femmes nord-africaines, vivant en France, quelque part, sont des combats qui sont déchirants pour nous à l'intérieur de nous-mêmes. Mais finalement, ces combats, aux yeux de la société, ils sont désuets, en fait. C'est-à-dire que ce soit une bagarre à plus de 30 ans, prendre un appartement et être indépendant. Bon, aujourd'hui, c'est des questions qui sont quand même, dans la société française, a priori, qui sont réglées depuis longtemps. Et pour nous, ils ne sont pas réglés. Et donc, c'est ce sentiment de décalage qui est compliqué à vivre aussi. Parce que autour de toi, tu vois bien que pour tes copines blanches, peut-être, les questions ne se posent pas de la même manière. Dans le rapport amoureux, c'est la même chose. Tout d'un coup, se mettre à rechercher l'âme sœur, c'est trop de questions qui se posent. Alors, moi, j'essaie de le raconter aussi de manière légère parce que c'est des questions qui sont sérieuses, mais j'ai toujours envie de les décrypter de manière marrante. Donc, par exemple, Imane, elle a ce qu'on appelle le test du Sidderi. Le Sidderi, donc, c'est les banquettes traditionnelles qu'on a dans nos salons, beaucoup d'entre nous, dans le salon de nos parents, en tout cas. Et le test du Sidderi, c'est qu'elle visualise le mec avec qui elle sort sur ce Sidderi. Et très vite, elle sait si ça colle ou si ça colle pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et puis sans cesse, en fait, en tant que femme, devoir répondre, je trouve, à cette question de la loyauté. En fait, chaque décision, c'est est-ce que je trahis ou pas. Et même si c'est inconscient, il y a quand même ça vraiment qui est très fort.
C'est tellement vrai. Enfin, je te jure, quand j'ai lu cet épisode là sur le site d'Ali, mais j'ai éclaté de rire. Mais c'est à la fois très grave ce que tu racontes, mais tellement vrai. Moi, à chaque fois que j'ai eu des sentiments pour quelqu'un, je l'ai imaginé face à mes parents. J'ai dit ouais, non, il est pas prêt. Et non, il peut pas passer ce test. Et pourquoi c'est si complexe la situation des femmes françaises d'origine nord-africaine, notamment en France? Pourquoi on en est encore là en 2021?
On en est encore là parce que je pense qu'on a mis du temps déjà à comprendre qu'il fallait aussi empoigner cette question de l'identité d'une autre manière. Pendant très longtemps, en fait, la femme nord-africaine, moi j'ai ce sentiment-là, après je suis née au milieu des années 80, peut-être qu'elle ne se pose pas de la même manière les questions pour les filles plus jeunes que moi, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment que pendant très longtemps, on était comme les garantes de la préservation de nos cultures. Et donc, inconsciemment, on a eu cette responsabilité sur les épaules. En fait, si la fille dans la famille, elle déconne, et quand je dis elle déconne, c'est par exemple, elle ne poursuit pas cette tradition-là, on est des pandas. En fait, voilà comment je vois les femmes nord-africaines, c'est qu'on est comme les dernières d'une espèce en voie de disparition. Et donc, c'est notre responsabilité de continuer ce qui est en train de s'effacer et de disparaître, à savoir les traditions de nos parents et de nos cultures d'origine. Et c'est nous, en fait, qui sommes les garantes de ça. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est très complexe pour les femmes, plus que pour les hommes, que nous, on n'a pas le droit de décevoir, aussi parce qu'on est sans doute, je pense, plus éveillés sur ces questions-là, plus sensibles à ces questions-là. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'on porte finalement la majeure partie de cette responsabilité-là. Pendant longtemps, la question de la femme nord-africaine, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'elle était posée par le prisme unique de l'émancipation à la française. C'est-à-dire que t'es une fille rebeu, t'as deux choix. Soit tu te maries avec un Français et tu quittes ta famille et tu romps et tu décides d'être libre, voilà, pour schématiser. Soit t'épouses ton cousin du bled, tu mets ton voile et tu fais des enfants, tu travailles pas et tu restes à la maison et tu récupères le cahier de recettes de gâteaux de l'Aïd de maman. Comme s'il n'y avait aucune autre alternative possible. Et d'ailleurs, c'est même pas un jugement de valeur sur un choix ou un autre, c'est qu'il en existe 1000 autres choix. Et voilà, et c'est vrai que dans ce roman aussi, j'avais envie qu'on soit un peu indulgent avec les parents, avec peut-être ce qui peut sembler comme des principes archaïques, notamment à travers la question de la fille aînée dont tu parlais tout à l'heure, qui est Malika, qui fait partie de la première génération des aînés. Et donc les parents, ils les ont mariés, souvent jeunes, souvent c'est des arrangements, mais parce qu'ils espéraient bien faire, ils avaient l'impression que simplement c'était ce qu'il fallait faire pour leur fille, et c'est pas parce qu'ils leur voulaient du mal, ils avaient pas le sentiment, je pense, de les enfermer ou de choisir à leur place ou de les empêcher d'être libres de leur choix. C'est que, en fait, dans leur époque en plus, sans doute en Algérie aujourd'hui c'est plus comme ça, mais dans leur époque, dans les communautés, et dans les villages, dans la vie rurale, ça se passait comme ça. Les parents, ils s'arrangeaient avec d'autres parents, et puis les choses avançaient comme ça. Donc pour eux, faut imaginer à quel point il y a un écart énorme entre la vie dans laquelle ils atterrissent et dans laquelle ils doivent éduquer leurs enfants et la vie qu'ils ont laissée. Et en fait, qu'ils étaient ancrés dans aucune des deux réalités. Parce que la vie qu'ils ont laissée au village, elle a continué à avancer sans eux. Et aujourd'hui, les mariages, ça se passe plus comme ça, forcément. Et donc... Je trouve que c'est bien d'avoir un regard indulgent aussi sur cette génération-là.
C'est ce qui m'a touchée aussi dans ton livre, c'est que tu nous autorises enfin à la nuance, à la complexité. C'est pas noir ou blanc, en fait. Et nos parents, ils ont fait comme ils pouvaient. Et je pense que d'autres personnes, et moi y compris, on a vécu des conflits avec nos parents, parce qu'en tant que femme, j'ai voulu faire des choix qui étaient contre les traditions, qui n'étaient pas dans les mœurs. Et effectivement, là, tu prouves que ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec leur histoire qui est méconnue, et c'est pour ça qu'on ne l'accepte pas ou qu'on ne la comprend pas, c'est parce qu'elle est racontée nulle part. Alors que, comme tu le dis très bien, elle fait partie de l'histoire de la France, notamment le rapport entre l'Algérie et la France qui est particulièrement complexe. Et je voulais te demander, quels sont les clichés que subissent encore les femmes d'origine nord-africaine aujourd'hui? Tu as parlé de la personne soumise à son mari qui va se marier avec le cousin du bled, de la femme qui renie totalement ses traditions. Est-ce qu'on a encore le cliché de la beurette aujourd'hui?
Ouais, j'ai l'impression que les clichés sur les femmes nord-africaines, ils sont quand même bien vissés. Bon, après, voilà, encore une fois, quand on s'intéresse un peu à l'histoire, on comprend aussi d'où viennent ces stéréotypes-là. que dans l'image qui était véhiculée par l'Empire colonial français, les femmes algériennes ou marocaines ou tunisiennes, elles avaient une certaine aussi... je pense qu'il y a un problème fondamental avec le corps des femmes maghrébines. C'est-à-dire comme quelque chose qu'on doit posséder, qui n'est pas, en fait, fait pour disposer de lui-même. Et si c'est pas un père, si c'est pas un frère, c'est un petit ami blanc, mais c'est quelqu'un d'autre, quoi. Il y a un vrai problème avec cette question de l'indépendance du corps. Et même toutes les questions aujourd'hui qu'on pose qui sont politiques, autour du voile, etc. En fait, c'est encore une fois, c'est la question du corps, c'est la question de la volonté individuelle des femmes nord-africaines. C'est-à-dire qu'on dise qu'elles sont soumises et qu'on doit les aider à s'émanciper, ou qu'on dise qu'on doit les maintenir dans la tradition, qu'on doit les forcer, peu importe. Dans les deux cas, on ne met pas la volonté de la femme nord-africaine au centre. Donc pour moi, il y a vraiment un rapport au corps de la femme nord-africaine qui est compliqué. Et souvent, moi, j'ai le sentiment qu'on est aussi dans des figures hypersexualisées. Je ne sais pas si vous connaissez, mais sûrement, ces images qui étaient des images de propagande à l'époque de l'Algérie française, avec ces slogans qui disaient « Vous êtes jolie, dévoilez-vous ». Et j'ai l'impression qu'on n'est pas tout à fait sorti de ça. On n'est pas complètement sorti de cette figure-là.
J'ai aussi posé des questions sur la vision de nos corps à Samia Saadani. Elle est la cofondatrice de Harash is Beautiful, mouvement de revalorisation des cheveux nord-africains. Se réapproprier nos corps, se trouver belle et être fière de ses différences quand on ne correspond pas aux critères de beauté, ça aussi, c'est une manière de ne plus être discrète.
Et donc, Harash is Beautiful est née d'un échange sur les réseaux avec Yacine Alami, qui racontait son expérience capillaire, on a discuté. Et il m'a dit « j'ai envie de faire quelque chose ». Il a organisé une rencontre à Paris et à partir de là, on a fondé le collectif. Forcément, si j'ai été sensible à cette problématique, c'est que j'ai commencé à aimer mes cheveux très tard, à l'âge de 23 ans. Et je trouve que c'est tard pour s'aimer. C'est donc surtout dû au fait que, comme énormément de personnes issues de la diaspora maghrébine non blanche, on intériorise le racisme et plus particulièrement le colorisme et la négrophobie. On l'intègre très tôt en France, dans les sociétés européennes, mais aussi nord-africaines, et particulièrement dans nos familles. Et cette intériorisation du rejet de nos cheveux ou de nos couleurs de peau, elle se fait par des micro-agressions, le racisme ordinaire, le sexisme, les discriminations structurelles. Par exemple, pour illustrer, dans le cadre professionnel, les cheveux lisses ont souvent été considérés comme plus compatibles avec le fait d'exercer un emploi ou de se présenter à un entretien. Comme autre type de discrimination, on peut... ne pas pouvoir avoir accès à des coiffeurs compétents ou bien on va avoir accès à des salons de coiffure qui discriminent à l'entrée ou dans le salon. Ensuite, en termes de micro-agression, il y a le fait de se faire toucher les cheveux par curiosité, sans que ce soit consenti, ou encore les gentils conseils à aller se faire un brushing. Et d'ailleurs, il m'est déjà arrivé qu'en marchant dans la rue, on me crie littéralement d'aller me faire un brushing. Ensuite, il y a le racisme ordinaire avec les injures quotidiennes à l'école. Et donc, tout petit, on intègre qu'il y a une norme et que nous, on n'est pas dedans. Et ensuite, le sexisme, en disant à une personne ou un membre de la famille qui a des cheveux foncés, des cheveux frisés ou une peau foncée, qu'elle aura beaucoup plus de difficultés à trouver un mari. Et donc, ça a incité aussi à l'expansion dans les communautés nord-africaines, que ce soit en Afrique du Nord ou dans la diaspora, à l'utilisation de crèmes éclaircissantes depuis, je dirais, une dizaine d'années à peu près. Ensuite, l'intériorisation, elle passe aussi par les croyances de certains parents qui vont parfois raser les cheveux de leurs enfants, leurs bébés, en pensant qu'ils le repousseront plus lisse. Et donc, l'idée de départ du collectif, c'était de montrer qu'il y avait un problème et qu'il y avait un réel enjeu. Déjà, il fallait convaincre notre communauté ou nos communautés que cet enjeu était légitime, puisqu'il y a dans les communautés nord-africaines des personnes qui correspondent au type de beauté eurocentrée qui ne se sentent pas concernées du coup par cette question et qui vont nier en fait que ça existe. Donc pour nous, c'était important de recueillir des témoignages, donc on en a recueilli une centaine. Et donc, dans la majorité des cas, ce sont nos familles qui transmettent ce rejet, parfois par souci d'intégration, pour essayer de rentrer dans les normes avec l'espoir d'être moins discriminée et moins marginalisée. Et d'autres fois, parce qu'il y a une intériorisation très profonde des normes de beauté recentrées et excluantes. Évidemment, ce sont les femmes qui s'intéressent le plus à cet enjeu de revendication des cheveux naturels et leur rôle est vraiment central. On peut le voir notamment dans les luttes menées par les femmes noires sur cette question. En plus de cela, l'idée de que prendre soin de ses cheveux est souvent considérée comme purement féminin, on ajoute le fait que le port du cheveu long chez les hommes nord-africains est considéré parfois comme une atteinte à leur masculinité ou est considéré comme étant pas coiffé. Pourtant, lorsqu'on voit les photos de nos aînés dans les années 1970-1980, on voit beaucoup de cheveux naturels et longs. Ensuite, 90% des témoignages qu'on a reçus venaient de femmes. Les femmes sont beaucoup plus visibles sur cette question puisqu'elles sont plus incitées ou plus à même de porter leurs cheveux longs et mi-longs. Et les hommes, quant à eux, sont plutôt encouragés à couper leurs cheveux courts. Jusqu'à ce qu'il y ait cette fameuse période dans les années 2010, donc la mode PNL, entre guillemets, certains ne connaissaient pas forcément la nature de leurs cheveux jusqu'à ce qu'ils laissent pousser leurs cheveux. Et là, on s'aperçoit que beaucoup ont commencé à se lisser les cheveux. Et pour d'autres, ils estimaient que la nature de leurs cheveux était incompatible avec le port d'un cheveu long, donc plus long qu'un dégradé. Donc en fait, les hommes ne se posent pas la question jusqu'à ce qu'ils se laissent pousser les cheveux et qu'ils voient en fait leur nature de cheveux naturels. L'objectif du collectif, c'est la revalorisation de nos cheveux naturels. Le deuxième objectif, c'est de nous réapproprier nos corps, nos savoir-faire en termes d'entretien et de coiffure qui ont été perdus, mais aussi et surtout d'entamer une réflexion, une conversation sur la décolonisation de nos normes de beauté.
Et qu'est-ce que tu veux dire aux femmes et aux femmes nord-africaines qui nous écoutent aujourd'hui, parce qu'on est une nouvelle génération, comme tu dis, on n'est pas totalement sortis de ces stéréotypes-là, mais on est encore dans des situations complexes, où nos corps ne nous appartiennent toujours pas, où il y a toujours une suspicion, si tu fais des choix, c'est parce qu'il doit y avoir quelqu'un derrière qui te manipule. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces femmes qui parfois perdent le courage ?
En fait, j'aurais tendance à leur dire qu'on est suffisamment créative et suffisamment intelligente et suffisamment forte pour inventer notre propre façon d'être libre. Et je crois que c'est un peu la clé. C'est-à-dire que moi, je pense qu'une femme voilée qui décide d'être femme au foyer et élever ses enfants chez elle, elle peut être totalement libre. Comme une femme qui décide de s'émanciper et de quitter le domicile familial pour prendre son appartement et travailler et décider de jamais se marier, elle peut être totalement libre. En fait, c'est juste que la première liberté qu'on doit prendre, parce que la liberté, ça se donne pas, ça se gagne. La première liberté à prendre, c'est celle de dire « c'est à moi de choisir ma façon d'être libre ».
Et c'est ça le féminisme, c'est d'accepter les choix de toutes les femmes, même si on n'est pas d'accord avec elles, d'accepter leur manière d'être libre. Merci, merci infiniment Faïza.
De rien. Non mais c'est vrai que c'est souvent contradictoire cette question de la liberté des femmes. Parce que le féminisme classique tel qu'il a été, construit en France, c'est un féminisme qui reste un féminisme bourgeois, qui reste un féminisme blanc et c'est très bien parce qu'on arrive avec des combats qui sont déjà menés. Mais il faut réinterroger aussi la manière dont on parle aux femmes racisées ou on les appelle comme on veut, mais en tout cas aux femmes qui ne sont pas dans ce schéma-là. Parce que, en fait, la rupture, c'est quelque chose qu'une femme blanche d'un milieu bourgeois, elle ne peut pas comprendre. Elle ne peut pas comprendre qu'on ne peut pas vivre un arrachement sur un arrachement. C'est-à-dire que dire à ses parents « moi, je quitte tout, je vous emmerde », on ne peut pas le faire. Parce qu'on se retrouve seul déjà. Et on a arraché quelque chose qui a déjà été arraché. C'est-à-dire que déjà l'exil, c'est un arrachement. Déjà, le fait de vivre là pour nos parents, c'est tragique en fait. Donc, on peut pas, c'est pas aussi simple que ça pour nous. Et déjà, reconnaître la complexité de nos décisions, c'est déjà super important.
Et ça me rend d'autant plus fière de voir des romancières comme toi qui sont de cette nouvelle génération, qui sont femmes à leur manière, qui sont libres à leur manière et qui arrivent à diffuser ces histoires qui sont encore trop peu racontées. Donc au nom de plein de monde, je te remercie Faïza pour le travail que tu fais, qui donne envie, qui motive des personnes comme moi à continuer à reprendre le flambeau et à écrire nos histoires.
Merci beaucoup Nadia. Ben, sache que c'est aussi une motivation pour moi et qu'il y a plein de fois où je ne me suis pas découragée en me disant... je sais que ça peut compter pour des gens de me lire et que... Et voilà. Donc merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et merci à Faïza Ghen et Samia Saadani pour leurs mots. Je suis fière d'évoluer dans un monde où des femmes aussi fortes et engagées racontent nos histoires. N'hésite pas à me raconter la tienne en m'écrivant un Nana Podcast, NA3 Podcast. Pour faire perdurer Nana et que je continue à titiller tes oreilles, partage et parle du podcast autour de toi. C'est grâce à vous que le projet peut continuer. À nos identités plurielles.